cette fois-ci, nous allons ouvrir le volet ou la fenêtre du monde de l'éducation, ou en tout cas d'une réflexion sur l'éducation, de manière peut-être plus large sur la transmission. Alors c'est Madame Yvette Péricot qui a accepté de nous parler. Merci Yvette, c'est pas la peine de présenter Yvette, je crois. Peut-être que si. Pour ceux qui ne connaissent pas Yvette Péricot, Yvette est professeure de philosophie ici au Studium, spécialiste de Maurice Blondel, et qui va nous parler en particulier, je crois, du rôle de la relation humaine au cœur de l'acte éducatif. Voilà, nous vous écoutons avec joie.
Alors, je vais distribuer des petits papiers avec 10 petits titres, parce que comme nous avons eu déjà toute la journée beaucoup d'exposés fort passionnants, je crains que la fatigue peut-être ne s'installe un peu. Alors, pour avoir des petits points d'appui, vous avez ces papiers. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, y a-t-il encore besoin de l'homme pour former l'homme ? C'est un titre bien ambitieux. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce titre ou qu'est-ce que nous pouvons dire en quelques instants. De nos jours, les formations se multiplient au gré des secteurs d'activité professionnelle surtout. Dans ce cas, et selon la définition commune, former quelqu'un signifie lui donner un enseignement particulier, lui permettre d'acquérir certains réflexes, de développer en lui certaines aptitudes, les aptitudes précisément requises pour une tâche professionnelle, qui souvent d'ailleurs appelle ensuite une formation continue. On peut remarquer la part croissante de la technique, donc d'outils de plus en plus sophistiqués, comme moyen de formation, et en conséquence, la diminution de la part de l'homme comme formateur dans tous ces domaines. Il ne faudrait pas oublier cependant que des hommes sont à l'origine des outils eux-mêmes et des programmes de formation. Dans une toute autre perspective, on forme aussi des séminaristes pour devenir prêtres. On forme des membres d'une communauté religieuse ou d'un institut de vie consacrée. Il y a quelques jours, dans le cadre du pèlerinage des séminaires de France à Lourdes, Monseigneur, alors j'ai du mal à prononcer son nom, mais Patron Wang, je ne sais pas si je prononce bien, en s'adressant aux formateurs de séminaires, leur disait que « former, c'est donner forme », en précisant que tout formateur chrétien vise à donner et à recevoir la forme du Christ. Le formateur, dans ce cas, collabore avec l'Esprit-Saint. Mais notre réflexion ne sera pas spécifiquement centrée sur ces deux domaines, d'ailleurs fort éloignés l'un de l'autre. Notre sujet, ici, est centré sur former l'homme, et non plus former des hommes aptes à réaliser une tâche ou une mission particulière. Ajoutons encore que le sens commun du mot « former » peut également signifier « donner une instruction »,« développer des facultés intellectuelles » ou une sensibilité particulière, une sensibilité artistique par exemple, « donner aussi une éducation intellectuelle et morale ». Et nous voyons là que donc, je dirais, instruction et éducation sont liées, dans ce sens du mot « former ». Il nous semble donc que « former l'homme » peut signifier « aider à façonner ce qu'il y a de plus spécifiquement humain en chacun », c'est-à-dire « contribuer au développement de l'être de l'homme ». Alors que les diverses formations professionnelles en particulier ne concernent que le faire. Cela ne couvre pas encore toute la question. Y a-t-il encore besoin de l'homme pour former l'homme ? Le « encore » nous renvoie d'emblée à notre époque, semble-t-il. Il y a donc des raisons particulières aujourd'hui pour formuler cette question. Et il nous semble aussi qu'elle se pose avec acuité dans le vaste domaine de l'éducation. C'est donc sur ce terrain de l'éducation que nous nous placerons pour examiner cette question. L'être humain, pour devenir pleinement homme dans le domaine de l'éducation, peut-il donc aujourd'hui être formé sans recours à d'autres personnes humaines? Le journal Le Monde du 8 avril 2000 rapportait ces propos du ministre de l'Éducation en France, qui était à l'époque Claude Allègre. Le service public d'éducation va avoir désormais un concurrent redoutable. Ce n'est plus l'enseignement privé sous contrat, c'est l'Internet. L'Internet qui éduquera et contrôlera sans punir, qui aidera chacun à son rythme. Internet va tout balayer. Les conséquences pratiques de tels propos sont abordées aujourd'hui sous différents angles, dans de très nombreux ouvrages, dans des articles de revues spécialisées, dans de nombreux colloques. Et c'est justement à partir de ces colloques, de ces livres, de ces articles contemporains que j'ai relevé le plan que vous avez entre les mains, parce que si je suis toujours dans l'enseignement, je suis plus depuis quelques années en prise directe avec école, collège, lycée. Voilà. Donc, j'allais voir un peu tout ce qui peut se dire et s'écrire, et pour ceux qui le veulent, à la fin, vous pourrez prendre ici, je me tape, toute la bibliographie dont je me suis servi. Il y a donc une dizaine d'ouvrages contemporains, écrits entre 2010 et 2014, donc 4 ou 5 de 2014, donc tout récent, des colloques également, de la revue Études, et puis voilà, un certain nombre, donc c'est à partir de là, parce que j'étais très étonnée de voir, certains ne sont pas spécifiquement chrétiens, mais je dirais que c'est du bon sens, et j'ai été étonnée de trouver un grand, grand nombre de constantes et de points communs. Et ce sont donc ces constantes que j'ai trouvées dans tous ces ouvrages, tous ces articles, tous ces colloques, qui m'ont donné les titres que vous avez entre les mains. Alors, ces points de réflexion que je vais aborder sont aussi, je dirais, des points d'interrogation, bien sûr, y a-t-il encore besoin de l'homme, mais aussi des points d'espérance, parce que je crois qu'il est assez évident qu'on peut répondre tout de suite à la question « oui » et peut-être plus que jamais, il y a encore besoin de l'homme pour former l'homme. Alors, je vais donc aborder les points les uns après les autres pour que vous puissiez respirer entre chaque point et que c'est peut-être pas trop difficile de suivre l'ensemble. Donc, le premier point, j'aborde « vivre en notre temps ». Je commence par des propos dont je ne vous donne pas la date volontairement, je le donnerai après. Ah aussi. L'homme s'enivre donc de dissipation, abus de vitesse, abus de lumière, abus de tonique, de stupéfiants, d'excitants, abus de fréquence dans les impressions, abus de diversité, abus de résonance, abus de facilité, abus de merveille, abus de ces prodigieux moyens de décrochage ou de déclenchement par l'artifice desquels d'immenses effets sont mis sous le doigt d'un enfant. Toute vie actuelle est inséparable de ces abus. L'auteur n'est pas Michel Serre. Il ne s'agit pas de petites poussettes. C'est Valéry qui s'exprime ainsi dans ses propos de 1925, propos sur l'intelligence. Et nous pourrions continuer dans le même registre, avec le même auteur, 10 ans plus tard, en 1935, où il écrit, dans le bilan de l'intelligence, « La quantité des publications, leur fréquence diurne, le flux des choses qui s'impriment ou se diffusent, emportent du matin au soir les jugements et les impressions, les mélangent et les malaxent, et font de nos cervelles une substance véritablement grise, où rien ne dure, rien ne domine, et nous éprouvons l'étrange monotonie de la nouveauté et l'ennui des merveilles et des extrêmes. » Alors, après ces propos, je dirais, je crois que nous avons une invitation à ne pas sombrer dans une vision dépressive de notre temps. Soit par la nostalgie d'un passé éducatif révolu, ou soit par la fascination des utopies de l'ère du numérique, des utopies post-humaines, comme les analyse si bien Jean-Michel Beignet dans la revue Études l'année dernière. Si la technologie a une part croissante à l'école et dans l'éducation en général, il faut s'en réjouir à plusieurs titres. L'horizon des savoirs ne cesse de s'étendre et les moyens d'y accéder sont fascinants. Il m'est arrivé de faire un cours de philosophie en salle informatique et je puis vous dire que cela fournit un appât supplémentaire pour une matière peu alléchante. Que les séminaristes qui m'écoutent ne soient pas jaloux parce qu'à Sainte-Garde, il y a un couloir informatique, mais il n'y a pas de salle informatique. Mais nous constatons aussi que le professeur n'est plus le seul acteur dans la transmission du savoir. Cette évidence s'impose avec beaucoup plus de force lorsque l'on considère les sources intarissables d'informations des petites poussettes, pour reprendre l'expression de Michel Serres. La culture des écrans, des supports numériques de plus en plus miniaturisés, fournissent des produits dits culturels comme des produits de consommation. Et ils ont de quoi monopoliser l'attention d'élèves peu enclins à recevoir un savoir limité à l'intérieur d'une classe. Faut-il donc penser que le rôle de l'homme dans le domaine de l'éducation ne peut cesser de s'amoindrir face à l'invasion des technologies dans tous les secteurs de la vie de l'enfant ou du jeune? Peut-être nous faut-il réfléchir, non au niveau du quantitatif, mais du qualitatif. Il semble que le rôle de l'homme dans la formation de l'homme soit de plus en plus nécessaire et que les adultes ont plus que jamais besoin de transmettre pour former les plus jeunes. Et j'en arrive à mon deuxième point, l'enfant sous le regard de la modernité. Ce n'est pas sous le seul effet des progrès technologiques que se pose aujourd'hui la question de savoir quel est le rôle de l'adulte ou des générations antérieures dans l'acquisition des connaissances par l'enfant. Un certain nombre de courants de pensée et de conceptions pédagogiques du XIXe et du XXe siècle ont façonné l'image de l'enfant autonome, capable d'apprendre tout seul, capable de choisir ce qui lui convient, capable de s'adapter à son environnement en fuyant toute contrainte. Et je voudrais m'arrêter un peu, mais très très brièvement, parce que je n'ai pas le temps, sur ces courants, parce qu'il me semble que l'on fait trop vite le procès de la technologie en oubliant que derrière, il y a aussi, des idéologies. Sans entrer dans les dédales de tous ces courants, on peut mentionner l'influence de certaines théories de l'évolution sur la conception de l'apprentissage de l'enfant. Nous savons que selon certaines théories de l'évolution, l'humanité se serait construite progressivement par adaptations successives pour parvenir peu à peu au contrôle de son environnement. Et certains courants prônent que, de même, dans l'éducation, l'évolution de chaque individu, c'est-à-dire de l'enfant, consisterait à reparcourir les étapes, comme l'en fait l'humanité, qui lui permettraient de parvenir par tâtonnement à une organisation intelligente de ses desseins. Ainsi, dans son auto-construction, l'enfant devrait privilégier l'expérimentation qui, à travers des tâtonnements successifs, lui permettrait d'apprendre à résoudre tous ses problèmes. Par ailleurs, le développement de la psychologie de l'enfant et l'apparition de nouveaux courants de pédagogie au début du XXe siècle renforceront une certaine conception de l'autonomie de l'enfant. Et à cet égard, la Suisse est un lieu où tout cela s'est beaucoup développé. Le premier institut de psychopédagogie est fondé à Genève en 1912 et il réunit en un même lieu l'étude psychologique de l'enfant, la pédagogie scientifique inspirée de la psychologie expérimentale et la formation des maîtres. C'est aussi à Genève que se développe le BIEN, Bureau international des écoles nouvelles, qui anticipe sur l'UNESCO. C'est aussi ensuite à Genève que nous trouvons Piaget, célèbre par son étude scientifique de l'intelligence. Il est directeur de l'Institut universitaire des sciences de l'éducation à Genève en 1933. De tout cela, de tous ces mouvements, tous ces courants, on peut dire que, je cite, « la défense de l'autonomie de l'enfant est peut-être le plus petit dénominateur commun entre les différentes tendances de l'éducation nouvelle et les applications envisageables de la psychologie de l'enfant à la pédagogie. » Donc je retiens l'autonomie. Enfin, il faut ajouter que tous ces courants et institutions s'inspirent fondamentalement de Rousseau. Rappelons-nous comment Rousseau, 18e siècle, nous présente Émile, l'élève idéal, dans le traité d'éducation de Rousseau. Émile, donc cet élève idéal, est sans transmission familiale puisqu'il est orphelin. Et la règle d'or de son éducateur est de suivre en premier lieu les demandes de l'enfant. L'enfant seul sait ce dont il a besoin et peut acquérir par expérience au contact de la nature les seules connaissances qui lui seront utiles. Inutile de vouloir lui inculquer des connaissances théoriques ou un bagage culturel dont il n'aura jamais besoin. C'est clairement affirmé le principe du pragmatisme qui préside à l'acquisition du savoir des mille. Il faudrait ajouter que sa conscience morale se mettra à fonctionner toute seule, et mieux que si elle était ternie par l'influence des maîtres. Il y a chez Rousseau l'idée de la bonté naturelle de l'homme. Et il choisira lui-même sa religion. Rien donc, dans l'éducation d'Émile, ne ressemble à l'exercice de l'autorité dans sa forme scolaire. L'influence de Rousseau n'appartient pas au passé. Elle est bien présente de nos jours. Apprendre par soi-même est juste ce qui est utile pour le moment présent. Il faut se rappeler encore qu'en 1971 parut un livre qui, à l'époque, eut un retentissement international, « Une société sans école » d'Ivan Illich. C'était une critique de l'institution scolaire trop répressive, où l'on ne tient pas compte de l'enfant capable de savoir ce qu'il a besoin d'apprendre, capable de créativité personnelle et collective. L'enfant est déjà un individu à part entière et qu'il ne doit entretenir avec tous que des rapports égalitaires. Autre influence, Freinet, qui par ailleurs eut des influences aussi positives, pas oublier, j'essaie de dégager là des points d'idéologie plus. Freinet, 1896-1966. Le jeu est en réalité un travail, guidé par l'exigence vitale d'adaptation au milieu naturel et social, d'où l'importance donnée ici aussi à l'expérience tâtonnée. Et la pensée de Freinet deviendra un mélange de vitalisme et de pragmatisme. L'enfant doit tout éprouver par lui-même. Ainsi, il n'est pas possible de le nourrir de l'acquis des autres. Il doit refaire son propre chemin par lui-même, construire seul son propre édifice. Autre remise en cause de l'institution scolaire, « Libres enfants de Summerhill », traduit en français en 1970. L'auteur, Neil, s'appuie ici encore sur des principes rousseauistes. Bonté naturelle de l'enfant, dont il faut respecter le processus naturel de développement, sans répression, et en accordant bien peu d'importance aux apprentissages scolaires. D'ailleurs, les cours devraient être facultatifs. Si Neil donne encore un peu de place à l'obéissance, il affirme aussi des droits égaux entre enfants et adultes. Nous voyons donc que bien des caractéristiques que nous retrouvons aujourd'hui sont déjà en germe dans tous ces courants, notamment l'impact de la notion d'autonomie individuelle, plus que jamais présente aujourd'hui. Mais d'autres rapprochements encore s'imposent. L'enfant qui choisit seul, on l'a vu dans tous ses courants, ce dont il a besoin, a tendance à se replier sur lui-même. Et aujourd'hui, où nous voyons partout tant de schémas de pensée, d'action, qui parviennent de l'extérieur par des réseaux de communication, l'enfant les reçoit de l'extérieur, mais en réalité, selon ses propres schémas. Donc, et il les adopte comme il adopte tout ce qui peut lui venir par tâtonnement, il les adopte comme s'il en était l'inventeur. Les nouveaux médias permettent donc une sorte de transmission d'égal à égal, ludique et attrayant, une communication horizontale sans contrainte, en harmonie avec les désirs exacerbés par les nouveaux produits de consommation. Autonomie absolue de l'enfant, capable d'engendrer plus tard en l'adulte qu'il deviendra, l'illusion de la toute-puissance, la soif permanente d'une liberté sans contrainte et sans limite, un individualisme radical, et ce n'est là fort heureusement qu'une conception anthropologique peu réaliste, même si elle est communément répandue. D'autres voies, au contraire, et aujourd'hui encore, nous encouragent à voir dans l'enfant, non pas cette table rase qui va s'autodéterminer par elle-même, mais un dynamisme qui interpelle notre responsabilité pour qu'il puisse devenir une personne. Un colloque des Bernardins en 2010 reprend chez Hannah Arendt un passage qui a encore toute son actualité. C'est un passage de la crise de l'éducation dans son ouvrage « La crise de la culture ». Hannah Arendt dit ceci, « L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. » Et j'en arrive à mon troisième point de réflexion, l'acte d'apprendre. L'enfant ne se construit pas tout seul, il n'apprend pas tout seul. Mais encore faut-il se demander ce qu'apprendre veut dire. On se réfère volontiers aujourd'hui à une définition simplement scientifique de l'apprentissage. Je cite, « L'apprentissage est un processus cérébral mis en jeu par un stimulus alliant perception, traitement et intégration de l'information. » À ce titre, les flots d'images et de sons dont sont inondés de jeunes cerveaux en permanence, mettent bien en branle le processus d'apprentissage et peut-être plus efficacement que la voix monotone d'un professeur ou un écrit sans relief fascinant. Cependant, cette multitude d'informations, parce que vous avez remarqué qu'il s'agissait de traitement de l'information dans cette définition, cette multitude d'informations ne fait fonctionner justement que ce registre du traitement de l'information, qui est effectivement une fonction du cerveau, et par voie de conséquence ne met en jeu qu'un certain niveau de la mémoire et de l'intelligence. Mais les apprentissages scolaires ont une autre finalité. Et je cite ici un livre qui est passionnant, ce sujet-là, il est de 2014, il s'appelle « Apprendre, transmettre ». Lire, écrire ou compter, il s'agit dans les trois cas, au-delà de la stricte compétence technique, d'accéder à un univers artificiel de la réflexion et de l'abstraction. Alors pourquoi un univers artificiel ? Artificiel veut dire ici systématisé et organisé. J'ai pris cette petite phrase de résumé, il y a tout un chapitre là-dessus, pour montrer que derrière lire, écrire et compter, c'est tout un processus intellectuel de l'intelligence qui se met en branle et qui doit continuer sans rupture. Donc ce n'est pas des exercices en eux-mêmes. Et on n'en voit peut-être pas suffisamment l'importance. L'acte même d'apprendre exige le passage d'une mémoire et d'une intelligence constamment extériorisées par les images, les sons, toutes les données sensorielles inhérentes aux techniques de l'information, au jeu, voire d'une certaine culture. Donc passage à une mémoire et une intelligence plus intériorisées et plus profonde. J'y reviendrai tout à l'heure à propos de cette fameuse théorie d'intelligence multiple. Cette intériorisation s'apprivoise par la lecture profonde. Ce qu'on appelle l'apprentissage, la lecture profonde. Il y a un beau chapitre dans le livre que je vous cite aussi là-dessus. Lecture réfléchie de textes longs. Lecture d'œuvres exigeant réflexion. Apprendre, c'est devoir entrer dans un système de signification cohérent. Et cela exige bien des efforts qui pourraient paraître impossibles aujourd'hui. Par exemple, mémoriser un texte de littérature ou de philosophie. Je l'ai fait pratiquer, je vous assure qu'il y a de beaux fruits. Mais pour cela, une médiation est nécessaire. C'est bon, ça. Apprendre passe par les autres et requiert transmission. Je cite, « Il est besoin de passeurs qui font le pont avec cette autre rive qui semble inaccessible. Il faut pouvoir compter sur des complices qui vous apportent à la fois la sécurité due à leur contrôle du point d'arrivée et la compréhension du chemin à parcourir. » Construire des progressions, aménager des paliers, tel est le rôle du professeur ou de l'éducateur. Quatrième point, les facettes de l'attention. Capter l'attention des enfants, voire des étudiants, est un défi de créativité constante pour l'enseignant, car toutes les sophistications techniques sont infiniment plus ingénieuses pour appâter les sens et l'esprit dans des domaines sans frontières, à des fins, parfois à des fins autres que ludiques d'ailleurs, ou virtuelles. Si pourtant l'enseignement garde une valeur de formation, comment capter l'attention entre les murs d'une classe? Toute véritable attention exige un effort. Qu'il s'agisse de sport, de mathématiques, de lettres ou d'annonces de la foi, il faut vouloir se concentrer. Et donc, peut-être aussi, il faut user de temps à autre d'un peu de contrainte. Bien que cela paraisse inévitable, et cette attitude-là, c'est évident, n'a pas bonne presse aujourd'hui, d'être la contrainte ou de l'autorité. Mais il me semble qu'elle est nécessaire. Une deuxième disposition, cependant, nous préoccupe tous. C'est la fameuse motivation. Comment motiver pour que l'attention fonctionne pendant un cours? Eh bien, pour y répondre, je vais me contenter de lire un texte de Simone Weil que nous pouvons un peu méditer. Simone Weil, la philosophe, 1909-1943. Simone Weil nous dit que l'intelligence se laisse conduire, et donc accrocher aussi, surtout par le désir et la joie. Il s'agit donc d'éveiller ce désir, non pas précisément le foisonnement des désirs de consommation matérielle ou culturelle, mais un désir plus profond qui s'apparente à des petites vérités, ou à la beauté, ou à des petits biens dont la semence cherche plus ou moins consciemment à croître en chaque enfant. Alors, voici donc des extraits du texte de Simone Veil. C'est tiré d'un texte qui s'intitule « Étude sur je sais plus maintenant, l'importance de l'attention en vue de l'amour de Dieu. L'importance de l'attention dans les études scolaires en vue de l'amour de Dieu. » Et ça a paru dans le livre « Attente de Dieu » qui est en 1942. Voici quelques extraits. La clé d'une conception chrétienne des études, c'est que la prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. Les exercices scolaires développent, bien entendu, une partie moins élevée de l'attention. Néanmoins, ils sont pleinement efficaces pour accroître le pouvoir d'attention qui sera disponible au moment de la prière. Bien qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études. La plupart des exercices scolaires ont aussi un certain intérêt intrinsèque, mais cet intérêt est secondaire. Jamais, en aucun cas, aucun effort d'attention véritable n'est perdu. Si on cherche avec une véritable attention la solution d'un problème de géométrie, et si, au bout d'une heure, on n'est pas plus avancé qu'en commençant, on a néanmoins avancé. Durant chaque minute de cette heure, dans une autre dimension plus mystérieuse. Sans qu'on le sente, sans qu'on le sache, cet effort en apparence stérile et sans fruit a mis plus de lumière dans l'âme. Le fruit se retrouvera un jour, plus tard, dans la prière. Il se retrouvera sans doute aussi, par surcroît, dans un domaine quelconque de l'intelligence, peut-être tout à fait étranger à la mathématique. Peut-être un jour, celui qui a donné cet effort inefficace sera-t-il capable de saisir plus directement, à cause de cet effort, la beauté d'un ver de racine. Mais que le fruit de cet effort doive se retrouver dans la prière, cela est certain, cela ne fait aucun doute. Les certitudes de cette espèce sont expérimentales. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention. C'est pourquoi, toutes les fois que l'on fait attention, on détruit du mal en soi. Tous les contresens dans les versions, toutes les absurdités dans la solution des problèmes de géométrie, toutes les gaucheries du style, toutes les défectuosités de l'enchaînement des idées dans les devoirs de français, tout cela vient de ce que la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque chose et, étant ainsi prématurément remplie, n'a plus été disponible pour la vérité. Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus, car l'homme ne peut pas les trouver par ses propres forces. Et s'il se met à leur recherche, il trouvera à la place des faux biens dont il ne saura pas discerner la fausseté. Celui qui traverse des années d'études sans développer en soi cette attention a perdu un grand trésor. Voilà, je laisse sur cette méditation de l'attention. Cinquième point, donc, s'enraciner dans la culture. Tous les outils de communication aujourd'hui favorise l'entrée dans un champ culturel immense où se produisent d'ailleurs des chocs de culture. Ce n'est pas de la comparaison des cultures pour préjuger de leur valeur qu'il s'agit ici, entrer dans la culture en général, plutôt, pas dans des cultures particulières. Nous parlons de la culture, c'est-à-dire des connaissances, des œuvres transmises comme un héritage par les générations antérieures et susceptibles d'enrichir l'esprit. C'est l'objet du livre récent de François-Xavier Bellamy. Je cite un petit passage où il nous dit qu'il faut se garder surtout de ne pas déconstruire la culture. La culture, malheureusement, dit-il, n'empêche pas toujours l'homme d'être inhumain. Mais l'inculture, c'est-à-dire le manque de culture, l'empêche d'être humain. Il faut la médiation de cet héritage qui nous est transmis, même de façon rudimentaire, par cet autre qui nous précède, pour que nous devenions nous-mêmes, pour que nous devenions humains. L'homme n'est pas lui-même sans médiation. Laissé en friche, il demeure à l'état brut. Et cette brutalité va contre sa nature, elle l'enferme dans une inhumaine sauvagerie. Et cela nous fait rappeler toute la violence aujourd'hui dans notre monde. Sans attribuer évidemment à ce défaut de culture tous les maux que nous connaissons, l'auteur fait tout de même remarquer que le recul culturel dans l'éducation peut signifier encore que nous avons préféré, avec Rousseau, renoncer à notre position d'adulte pour ne pas entraver la liberté des enfants. Voilà, sixième point, je vais aller plus rapidement, le dernier, oui. Faire émerger du sens. La manière dont la technologie permet d'apprendre aujourd'hui peut devenir source de confusion, à la fois, je dis peu, je ne dis pas qu'elle l'est nécessairement, à la fois au niveau des moyens à mettre en œuvre et de la finalité du fait même d'apprendre. Alors, je cite, « Apprendre doit être spontané, inductif, immédiat, toujours lié à l'utilité ou à l'efficacité, être pertinent. L'acquisition des connaissances est destinée à l'adaptation du sujet à son environnement. » C'est comme ça qu'on l'entend souvent aujourd'hui. « Et l'apprentissage ne peut être que réponse à une question, recherche d'une solution à un problème. » La notion contemporaine d'information renvoie donc explicitement à un comportementalisme adaptationniste qui relie vie efficace et information adéquate. C'était d'ailleurs la conviction de Norbert Wiener, le pape de la cybernétique, qui définissait ainsi la vraie vie. Vivre efficacement, c'est vivre avec une information adéquate. Information est le nom pour désigner le contenu de ce qui est échangé avec l'extérieur à mesure que nous nous y adaptons et que nous appliquons les résultats de notre adaptation. Un modèle de vie adapté, en parfaite congruence avec les valeurs de notre époque, efficience et performance, et au diable, la science et la contemplation. Ah, bien. Puisqu'aujourd'hui, on apprend ailleurs qu'à l'école, par soi-même, à son propre rythme, quand on en a besoin, sans peur et sans risque, quel peut donc bien être l'apport d'un enseignant? Alors, je cite là encore ce que j'ai trouvé dans le livre, donc « Apprendre et transmettre ». L'école survivra parce qu'elle constitue l'espace dédié à la transmission de ce qui ne peut s'apprendre ailleurs. L'école continuera parce qu'il est de la responsabilité de la collectivité de transmettre aux jeunes ce qui leur permet de ne pas être dépendants. C'est à elle de fournir aux nouvelles générations les outils qui leur permettront de s'approprier intelligemment les technologies du numérique et même de compenser les déficits produits par leur usage exclusif. C'est au professeur d'apprendre à vivre dans le temps de la réflexion, du calme, de l'imagination, pour résister au choc de la vitesse et de l'immédiateté. Le professeur doit aider à bâtir la cohérence des savoirs, à les unifier, apprendre à user de rigueur intellectuelle, à tendre vers ce qui est beau, bon, vrai, en réponse aux sollicitations secrètes de toute nature d'enfant. Et je passe à un autre point, extrêmement important, me semble-t-il, pour souligner le rôle du professeur. Je l'ai intitulé « Dévoiler la fragilité ». L'une des utopies du transhumanisme est de vouloir supprimer toutes les limites de l'existence, toute la finitude humaine que comporte le vieillissement, la souffrance, la mort. Ne revient-il pas à l'école aujourd'hui de montrer la noblesse de la personne humaine à tous les âges de la vie, et non pas seulement selon les critères de beauté physique véhiculés par les médias? Une personne ne se réduit pas à son corps. Ne faut-il pas montrer ce qui fait la valeur d'une existence, le sens d'une vie, au-delà des seuls critères de réussite professionnelle? Faire accéder progressivement au sens d'une croissance de toute la personne humaine, croissance qui rencontre inévitablement la souffrance, croissance qui sera confrontée au mal sous diverses formes. Cela ne fait-il pas partie de tout ce qu'une intelligence d'enfant ou de jeune est capable de comprendre? Les théories des intelligences multiples qui ont fleuri depuis la fin du siècle dernier, et Gardner en est l'un des plus grands représentants, et dans un article récent faisant allusion à ces intelligences multiples, nous trouvons cette question. Sommes-nous capables de définir l'intelligence? En oubliant les tests, les sciences dures et les sciences de consolation, pouvons-nous nous demander ce qui unit des facultés si diverses? À côté de, vous savez, il y a 8 formes d'intelligence multiple, hein, ces fameuses théories. Il y a une intelligence, je pourrais vous montrer, là, j'ai l'article, logique, linguistique, musicale, kinesthésique, mathématique, ainsi de suite. Et un article dit ceci, enfin, nos 8 intelligences plus une. Enfin, en discussion, dans ce petit article, en discussion, l'intelligence existentielle. La propension à se poser des grandes questions philosophiques telles que « Pourquoi mourons-nous ? » Il est évident que la théorie des intelligences multiples met l'accent sur l'adaptation à un métier ou sur les portes d'entrée que l'on peut avoir avec un élève pour le rendre plus attentif, mais c'est loin d'épuiser le tout de l'intelligence. Le rôle de l'intelligence humaine est d'accéder à la vérité et les questions profondes, les questions de la vie, toutes celles que je viens de citer, elles se posent à tout homme. Ce sont les questions de l'intelligence et on l'oublie cela trop souvent. C'est là, me semble-t-il, qu'est le rôle plus important que jamais de l'adulte, d'éveiller cette part existentielle en tout être humain. Alors je cite là encore, l'école précède la demande, et le rôle de l'enseignant est précisément de susciter les interrogations et les problèmes, et d'apporter des questions que les élèves ne se poseraient jamais dans leur vie quotidienne. Là est la grande différence. Les programmes scolaires sont le fruit d'un choix collectif concernant les savoirs qu'une société estime devoir transmettre à tous les jeunes. Ils relèvent d'une décision politique. Mais cela ne dispense pas les enseignants de leur devoir de susciter des questions et des problèmes. Ils ont la lourde tâche de motiver leurs élèves à acquérir ces savoirs-là. Face à la démesure que créent les technologies, le futur aura encore besoin de nous, écrivait l'an dernier Jean-Michel Beignet. Il faut ouvrir d'autres horizons, avec des valeurs soucieuses de, là je cite Jean-Michel Beignet, hein, avec des valeurs soucieuses de préserver la vulnérabilité et la conscience de la fragilité comme le véritable privilège de l'humain. Je passe à mon 8e point. Les vertus de la rencontre, alors c'est là que j'ai une petite erreur sur mon petit papier. Vous avez suscité la créativité, mais c'est en même temps suscité la créativité par les vertus de la rencontre et du dialogue. La démarche de construction individuelle de l'enfant par lui-même, telle que nous l'avons évoquée dans certains courants éducatifs, rejette délibérément la transmission intergénérationnelle sous toutes ses formes et isole le jeune en lui-même. Les rencontres virtuelles peuvent donner l'illusion de sortir de cet isolement, mais en réalité, elles ne brisent pas cet isolement. Le rôle de l'enseignant est donc d'apprendre à l'enfant à se socialiser, à vivre avec d'autres et à s'en découvrir solidaire. On apprend avec d'autres et par les autres. Mais il revient sans doute au professeur de faire découvrir les exigences en même temps que les richesses de la rencontre et du dialogue. Par exemple, apprendre à bannir la violence sous toutes ses formes, apprendre à respecter non seulement les autres, mais les œuvres des autres, et à ne pas les tourner en dérision. Tâche sans doute bien difficile aujourd'hui, où le groupe classe, loin d'être perçu comme une communauté, peut être vécu comme une contrainte. Martin Buber, dans son beau livre « La relation âme de l'éducation », qui était paru en allemand en 1926, écrit ceci. La liberté dans l'éducation, c'est de pouvoir être mise en relation. Et il nous montre que pour que la relation entre l'adulte et l'enfant porte ses fruits, il ne faut pas qu'elle soit le lieu de l'exercice d'une volonté de puissance. Le véritable éducateur, en découvrant tous les visages de sa classe, porte sur eux le regard du Créateur dont il est le lieutenant véritable. Les éducateurs qui croient encore à la valeur de la transmission intergénérationnelle n'ont pas pour but de transmettre un passé fossilisé qui avancerait figé de génération en génération. L'héritage d'un passé, c'est un don reçu et un don à transmettre pour être enrichi. Le rôle de l'enseignant qui puise dans le trésor d'une culture et de faire revivre cette culture pour que de jeunes esprits s'en nourrissent et deviennent plus créatifs à leur tour. C'est le propre des grandes œuvres d'être non seulement réinterprétées, mais de susciter d'autres créations. Et c'est là aussi une autre figure de la liberté. Je cite « Désirer transmettre la vie, une éducation, un enseignement à un autre que soi, ce n'est pas seulement désirer éprouver la joie de partager avec lui ou avec elle ce que l'on juge précieux ou digne de survivre en d'autres que soi, malgré les tragédies du monde. C'est découvrir que ce partage n'est jamais univoque, car il impose d'affronter l'unicité d'une vie qui, fût-elle celle de son propre fils ou de sa propre fille, ne reproduit rien comme telle. Chaque vie humaine est nouvelle. Transmettre dans cette optique, c'est donc toujours désirer qu'autrui prenne la relève, non pas pour que notre propre vie se prolonge en lui ou en elle, dans ses faits et gestes, ou tout simplement dans sa mémoire. Désirer, raconter, expliquer, démontrer, ou encore écouter et faire écouter, c'est surtout éprouver en soi la force de ce qui ne nous appartient pas, qui nous surpasse et qui, pour cette raison, demande à être transmis à d'autres. Bon, neuvième point, qui sera très court, de l'autonomie individuelle à l'autonomie personnelle. Le modèle de l'enfant table rase, comme nous l'avons vu au début, qui grandit sous la seule impulsion de son individualité, modèle rousseauiste donc, est en révolte permanente contre tous les enracinements et rêve d'une émancipation sans limite. J'emprunte ici un passage au livre assez récent aussi de Chantal Delsol. L'émancipation sans limite suppose une vie de bivouac. La valeur paroxystique de la liberté individuelle déployée à chaque moment au détriment de tout lien ou serment, de toute histoire ou promesse, n'entretient qu'une existence saccadée, dépourvue de véritable cohérence, car les multiples expressions de la simple liberté ne font pas une cohérence. Il s'agit là d'une émancipation pervertie, parce qu'elle se déploie sans prendre en compte l'enracinement minimal hors duquel l'humain se dilue et devient zombie. Pour parvenir à une autonomie personnelle, c'est-à-dire l'autonomie d'une personne humaine, il faut consentir aux deux faces de l'enracinement. La plus superficielle se traduit par l'identification à un monde culturel. Elle est relative parce qu'aujourd'hui on peut passer vivre dans plusieurs cultures, mais à condition qu'il y ait quand même un véritable enracinement. Et l'autre face de l'enracinement, beaucoup plus profonde celle-là, c'est celle des caractéristiques simplement humaines qui sont autant de généalogies silencieuses. C'est en ce sens que Simone Weil parlait d'enracinement, en décrivant les besoins vitaux de l'âme comme la liberté, l'égalité ou la responsabilité, ces nourritures indispensables sans lesquelles l'esprit se défait comme un corps sans eau. On ne peut les éradiquer sans porter atteinte à l'humain. J'en arrive à mon dernier point, intitulé « Des maîtres, des témoins ». Par rapport à toutes ces réflexions antérieures, il est évident que le véritable, j'allais dire, enseignant aujourd'hui qui a toutes ces tâches, ne peut être qu'un maître, entre guillemets, ou témoin. Non pas des maîtres tels qu'on a voulu les critiquer dans la critique de toute autorité, de toute contrainte à l'école. Pas le maître d'école, le maître, le sage, si vous voulez. En 1969, Maritain, dans son livre « Pour une philosophie de l'éducation », écrivait ceci. « En ce qui concerne notre monde de connaissances mouvant et changeant, tous les gains et toutes les découvertes nouvelles doivent être employés, non à saccager et rejeter ce qui a été acquis par le passé, mais à l'accroître. Œuvre d'intégration, non de destruction. » Cela pourtant est plus aisé à dire qu'à faire, car cela suppose que l'esprit des adultes, particulièrement des maîtres, n'est pas lui-même dans un état de division et d'anarchie, et que les adultes sont en possession de ce qu'ils ont à communiquer, à savoir la sagesse et une connaissance unifiée. Description qui garde de Maritain, une actualité pour les maîtres que devraient être aujourd'hui les éducateurs au rôle irremplaçable. Un enseignant dont la vocation a sans doute été suscitée par un maître témoigne dans un article intitulé, cet article de la revue Études de 2013 et qui s'intitule « Internet m'a appris pourquoi j'enseigne ». Alors il nous dit ceci. Il est nécessaire d'avoir des maîtres qui vous ouvrent les portes du langage, de la beauté, de la vérité, pas des aigris, mais des enthousiastes de l'idée, qui apportent une intelligence du monde, qui donne à être. L'intelligence appelle l'intelligence, elle suscite du désir, ce qu'un écran n'apportera jamais. Un autre ouvrage donc, décrit, c'est toujours le transmettre apprendre, ce qu'est cette relation singulière qui fait découvrir à l'élève la présence d'un maître. Il y a plusieurs pages qui décrivent, je vais vous les donner, les résumés, ce que peut être le maître aujourd'hui. Le maître n'est pas celui qui sait tout. Tout savant n'est pas ipso facto un maître. Ce qui fait le maître est beaucoup plus spécifiquement une certaine manière de vivre et de porter le savoir qui a la propriété remarquable de la rendre apte à la transmission. Un vrai maître est celui qui donne le sens de ce que nous ignorons, plus encore que de ce que nous connaissons. Le maître est encore celui qui aide le disciple, c'est-à-dire l'élève, à se comprendre lui-même. Le maître est celui qui fait toujours avancer. Je cite, « Il est celui qui permet d'entrer. Il représente le médiateur, le passeur, grâce auquel vous parvenez à gagner l'autre côté alors que vous pensiez de prime abord rester sur la rive. » À travers les personnes qu'il instruit, le maître œuvre, je cite, « si modestement que ce soit, à la poursuite d'un effort idéal et d'un travail de connaissance qui ne s'épuise pas dans les individualités, mais qui ne trouve leur sens, ultimement, qu'à l'échelle de l'humanité entière et de son aventure dans le temps. » Le savoir d'un maître peut se diffuser par des œuvres ou par des communications écrites, mais c'est surtout par sa parole personnelle que son impact prend tout son relief, parce que de la parole émane une présence. Le maître est celui qui donne, gratuitement, sans que rien ne l'y oblige, et qui donne non seulement du savoir, mais de lui-même. Il fait don de ce qu'il a appris. Le maître, qu'est l'éducateur chrétien, est en même temps un témoin. Un témoin qui donne confiance, qui fait germer l'espérance. Beaucoup d'entre nous ici connaissent certainement le livre de Marguerite Léna, Le passage du témoin. Mais nous conclurons par les mots de Fabrice Hadjadj, dans, je crois que c'est son dernier livre, c'est en 2014 en tout cas, puisque tout est en voie de destruction. Donc je prends un petit passage. Ce passage concernant les pédagogues, dit-il, dont nous avons besoin. Alors je cite. « Plus que jamais sont nécessaires d'authentiques témoins, qui sachent voir plus loin que les autres, parce que leur vie embrasse des espaces plus vastes. Le témoin est celui qui vit en premier le chemin qu'il propose. Merveilleux est le temps qui nous pose la plus belle exigence comme un ultimatum. L'éducateur ne doit pas se faire tant pédagogue que témoin. Il ne se contente pas de dispenser des règles de manière ludique et sympa. Il a regardé la mort collective en face et il joue sa vie parce que, seule l'anticipation de la vie éternelle peut ouvrir une voie dans la mer qui va nous engloutir. Les prospectives peuvent être sombres, les pronostics fatals. Il ne montre pas seulement, il inaugure un chemin, à l'exemple de celui qui n'a pas le chemin, mais qui est le chemin et la vie.
Merci beaucoup Yvette.